Un journal présenté par Marie-Aimée Copleutre. Bonsoir.
Bonsoir à tous. Une prise de parole très attendue, celle de Benjamin Netanyahou, qui persiste et assume sa nouvelle opération militaire dans Gaza, malgré les condamnations internationales. Raconter la Seconde Guerre mondiale à Auschwitz, pour la toute première fois, une maquette virtuelle du camp est dévoilée au grand public. En France, à Caen, la Wi-Fi dans les trains, la SNCF lance un appel d'offres. Qui de la France ou des États-Unis équipera nos TGV? En fin de journal, un hommage à une figure de France Culture, François Chalin, architecte et producteur de l'émission Métropolitain. Il est décédé cette semaine à 76 ans. Benjamin Netanyahou se montre inflexible devant la presse internationale. Il justifie son plan de démilitarisation pour Gaza. Son but n'est pas d'occuper Gaza. Il vient de prendre la parole. Tendez l'oreille, le son est traduit en direct.
Notre objectif à Gaza, c'est de terminer la guerre en détruisant le Hamas. Et les deux points forts qui restent encore. Il y a des candidats pour l'administration, pour la période de transition. Nous voulons une ceinture de sécurité à nos frontières, mais nous voulons pas rester à Gaza. C'est pas notre objectif, ni l'objectif de l'État d'Israël. Notre objectif est d'assurer qu'il y ait plus de Hamas à Gaza, parce qu'ils se forment au terrorisme, ils lancent des attaques terroristes. C'est la seule chose qu'ils font là-bas.
Benjamin Netanyahou qui réaffirme sa volonté mais n'a toutefois dévoilé que très peu de détails sur ce plan d'occupation, Alice Moreno.
Benjamin Netanyahou a balayé très rapidement les différents points concernant son plan de contrôle à l'aide d'une carte succincte de la bande de Gaza. Il a simplement désigné deux zones spécifiques dans lesquelles se trouvent encore, selon lui, des membres du Hamas et où l'armée devra opérer. La ville de Gaza et le secteur des camps de réfugiés à Khan Younes. Il a assuré que la population serait évacuée dans des zones sécurisées sans jamais préciser comment ce déplacement de population serait rendu possible ni vers quel endroit. Mais il a promis que l'évacuation des 2 millions de Gazaouis ne durerait que quelques jours. Enfin, il a réaffirmé le fait qu'Israël ne gardera pas le contrôle sur l'enclave à long terme, là encore, sans désigner qui que ce soit pour reprendre la gouvernance. Très rapidement, il a basculé dans une longue diatribe contre le Hamas. Un message: ouvrez les yeux sur les mensonges du Hamas, s'est affiché derrière lui. Il a décortiqué ce qu'il désigne comme de fausses informations portées par le Hamas, dit-il, et reprises dans la presse internationale. Enfin, dans une session de questions-réponses à l'issue de la conférence, il a balayé les critiques concernant la mise en danger des otages si son plan était mené à exécution. Le Premier ministre dit garder l'espoir de ramener vivants tous ceux qui le sont encore.
Benjamin Netanyahou tiendra une seconde conférence devant la presse locale à 19h ce soir pour devancer le Conseil de sécurité de l'ONU qui se tient en urgence en ce moment dans l'objectif d'empêcher cette nouvelle opération militaire dans Gaza, un plan condamné à la quasi-unanimité dans le monde, sauf par les États-Unis. Au Soudan, à l'ouest du pays, au Darfour, au moins 63 personnes sont mortes de malnutrition en une semaine. Dans la ville d'El Fasher, une ville assiégée depuis plus d'un an par les paramilitaires dans des forces de soutien rapide, FSR, en guerre contre l'armée soudanaise depuis avril 2023. Le chancelier allemand Friedrich Merz insiste ce soir pour que le président ukrainien Volodymyr Zelensky participe vendredi en Alaska à la rencontre contre Trump-Poutine au sujet de la résolution de guerre. La chef de la diplomatie de l'Union européenne, Kaya Kallas, convoque également une réunion extraordinaire demain avec les ministres des Affaires étrangères de l'Union européenne. En Pologne, une conférence consacrée à l'avenir de la Biélorussie se tient en ce moment à Varsovie. 5 ans après les gigantesques manifestations d'août 2020 du peuple biélorusse qui s'opposait à la réélection d'Alexandre Loukachenko, réélection jugée frauduleuse par l'Union européenne. La chef de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a exprimé son soutien au peuple biélorusse ce week-end, maintenant la promesse de mobiliser 3 milliards d'euros pour accompagner la Biélorussie sur la voie de la démocratie. Toujours en Pologne, le mémorial d'Auschwitz dévoile une nouvelle maquette virtuelle du camp de concentration et d'extermination. C'est une première qui va servir aux réalisateurs pour leurs films, car depuis les années 90, les responsables du site interdisent de tourner des fictions sur ce lieu de mémoire. Désormais, avec cette maquette, la transmission sera plus aisée. Explication de notre correspondant en Pologne, Adrien Sarlat.
5 heures de vidéo, 18 000 photos, 44 terabytes de données et surtout 2 ans de travail. Voilà ce qu'il aura fallu pour créer cette reproduction numérique du camp d'Auschwitz avec une perfection quasi scientifique. Et pour Bartosz Bartizel, le porte-parole du mémorial, le résultat de ce travail est bien plus qu'un simple décor de film.
Certes, on l'a conçu comme un outil qui puisse servir à la création de fiction, mais on voit aussi que c'est évidemment une façon de documenter le site authentique. En créant un tel outil, on archive numériquement chaque bâtiment, chaque ruine.
Le projet intitulé Pictures from Auschwitz, photos d'Auschwitz en français, oscille donc entre esthétique et travail de conservation. Le mémorial se réserve le droit de décider par lui-même quels réalisateurs pourront en faire usage dans leurs œuvres.
S'ils veulent faire usage de notre maquette, nous devons vérifier le scénario du film en amont, pour s'assurer qu'il n'y ait pas de contre-vérité historique ou d'anachronisme. On veut s'assurer que leur projet est en accord avec l'histoire de ce lieu.
Jusqu'ici, le mémorial a pu compter sur les financements, entre autres, de la Commission européenne et de l'Institut du film polonais, mais seuls les extérieurs du camp principal d'Auschwitz ont pour l'instant été numérisés. Les responsables du mémorial tentent actuellement de lever 1,5 million d'euros pour compléter la maquette avec les intérieurs ainsi que tout le site de Birkenau.
Les progrès s'enlisent en Suisse pour signer le traité plastique mondial, négocié en ce moment avec 184 pays à Genève. D'ici jeudi, un accord doit être trouvé pour lutter contre la production de plastique intensive qui va dépasser 1 milliard de tonnes en 2060. Les pays pétroliers et gaziers bloquent les discussions comme les États-Unis, la Russie, l'Arabie Saoudite ou encore le Koweït. En Grèce, les flammes continuent d'avancer près d'Athènes où depuis vendredi, des centaines de pompiers luttent contre un feu qui s'est déclenché dans la commune de Palaia Fokaia. Au moins 50 personnes et 5 villages ont été évacués. On compte également un mort. Ce sont également les flancs du Vésuve près de Naples en Italie qui sont recouverts de l'eau des canadaires depuis plus de 24 heures. Les pompiers tentent d'éteindre un incendie qui s'est déclenché vendredi. Le lieu et tous les sentiers de randonnée environnement sont fermés. Fermé aux touristes. En France, le feu dans l'Aude, lui, a été surveillé toute la journée. Plusieurs réactivations du feu ont été traitées cette dernière heure par les pompiers. Le préfet du département fait état d'une journée difficile en raison du vent sec et des fortes chaleurs. 1300 pompiers sont encore sur place dans le massif des Corbières. Les habitants ont l'interdiction de se rendre dans les massifs forestiers jusqu'à la fin de la semaine prochaine. Autre incendie fixé en milieu d'après-midi, cette fois-ci dans une usine Seveso, classée seuil haut dans le Gard. Usine qui fabrique des pastilles de chlore pour les piscines. Le feu s'est déclenché ce matin. La population est restée confinée jusqu'à la fin de l'après-midi à cause des fumées et des vapeurs. Un stock de chlore d'une contenance de 40 à 60 tonnes a brûlé. Les trains supprimés par la SNCF en raison de la canicule se poursuivent jusqu'à ce soir et demain inclus. Dans le détail, ce sont ceux de la ligne Bordeaux, Marseille, Paris, Limoges, Toulouse et Paris-Clermont. C'est la vétusté de certains trains, notamment des corails, qui ne permet pas d'assurer leur circulation. Le vieillissement du parc est un sérieux souci pour la SNCF qui fait face à une difficulté supplémentaire cet été, assurer la Wi-Fi dans l'ensemble des TGV, Tobias Kleser.
Si le Wi-Fi est mauvais dans les trains, c'est parce que les solutions techniques actuelles ne sont pas adaptées. Le réseau cellulaire terrestre qui fournit actuellement la connectivité se heurte à de nombreuses gênes. Entre un TGV qui file à 300 km/h, les zones blanches ou encore la saturation du réseau, il est impossible de garantir aux passagers une connexion stable. La SNCF va donc se tourner vers la technologie satellitaire. Selon Jean-Baptiste Thépeau de Nova Space, cabinet de conseil spécialisé dans le secteur spatial, ce changement devrait stabiliser l'offre actuelle.
La connectivité satellite va permettre d'augmenter la capacité disponible par rame en apportant plus de débit et va également permettre d'améliorer la stabilité de la connexion. Les trains qui aujourd'hui sont reliés par antenne cellulaire doivent changer antenne très régulièrement, vu que le train roule à 300 km/h. Avec le satellite, la connexion devrait être plus stable.
Deux concurrents sont d'ores et déjà en lice pour répondre à cet appel d'offres. D'un côté, le géant américain SpaceX avec sa flotte de satellites Starlink, De l'autre, Eutelsat, l'opérateur de droit français. Si le premier bénéficie d'une avance technologique et d'une solide réputation, le deuxième a l'avantage d'être européen. Pour Laetitia Cesari, juriste spécialisée en droit spatial, la question de la souveraineté peut faire la différence.
Il y a cette volonté de pousser pour des services européens. Et c'est notamment ce que la Commission essaye de favoriser en mettant en avant son projet de règlement européen sur les services et les données spatiales. C'est là que Eutelsat a un véritable rôle à jouer pour que la France et l'Europe puissent démontrer que nous bénéficions d'un service de connectivité qui est fiable, en particulier avec cette constellation en orbite basse.
Reste à savoir si la promesse d'une meilleure connexion sera tenue et si ce service sera facturé.
Aucune rémunération supplémentaire pour les salariés qui travailleront les jours fériés. C'est écrit noir sur blanc sur le document écrit par le gouvernement envoyé aux partenaires sociaux ce week-end, aux syndicats de salariés et de dirigeants. Isabelle Raymond, les syndicats étaient excédés ce week-end après avoir reçu ces détails de cette réforme qui demande aux salariés de travailler plus.
Produire plus, c'est avant tout travailler plus, peut-on lire dans le document envoyé aux partenaires sociaux, et les salariés à temps plein en France travaillent moins que leurs voisins européens. Le gouvernement souhaite supprimer 2 jours fériés, le lundi de Pâques et le 8 mai, une suppression qu'il veut inscrire dans le prochain projet de loi de finances pour application dès l'an prochain. 2 jours fériés en moins pour le secteur privé, mais aussi pour les agents publics, sans hausse de salaire, et qui rapportera 4 milliards 200 millions d'euros au budget de l'État, selon le document d'orientation envoyé aux leaders syndicaux. Le Premier ministre demande aux partenaires sociaux de dire avant le 1er septembre s'ils sont d'accord pour ouvrir une négociation sur le sujet, sachant qu'elle doit aboutir au plus tard le 30 septembre. Côté syndical, la CFTC insiste sur le fait qu'il faut ramener davantage de chômeurs vers l'emploi plutôt que de supprimer des jours fériés. Côté patronal, la CPME refuse que le privé négocie les modalités d'une mesure qui concernera aussi les fonctionnaires.
Les syndicats ont également reçu cette semaine une autre lettre dite de cadrage sur la réforme de l'assurance chômage. Le gouvernement veut faire 2 à 2,5 milliards d'euros d'économies par an jusqu'en 2029. Cette nouvelle réforme intervient alors qu'un accord avait été conclu en novembre dernier sur le sujet. France Culture perd l'une de ses voix des années 2000. L'architecte François Chalin est mort d'un malaise cardiaque cette semaine à l'âge de 76 ans. On l'a appris aujourd'hui. Il est décédé sur une plage du Finistère, critique, enseignant et producteur de l'émission Métropolitain sur France Culture de 1999 à 2012. Il aura marqué la mémoire de ceux qui l'ont écouté et fréquenté. Spécialiste de Le Corbusier, ce soir il est décrit comme un puits de science à l'humour décapant, Mélanie Kuzelevitch.
Partout où il est passé, François Chalin a fait mouche, comme à l'Académie des Beaux-Arts où il était correspondant depuis 16 ans. C'était d'abord une référence dans son domaine, salue Laurent Petit-Gérard, compositeur, chef d'orchestre et secrétaire perpétuel de l'Académie.
D'abord d'une intelligence extrême, d'une connaissance de l'architecture, mais encyclopédique, ce qui fait que lorsque tout d'un coup il y avait un grand mouvement ou alors une controverse à propos de l'architecture ou le décès d'un très grand architecte, à chaque fois il faisait un rapport à notre compagnie absolument passionnant, il soulevait les différents problèmes et c'était un homme extrêmement enrichissant à connaître.
François Chalin, c'était
Paris
aussi une voix.
Parce que dans le voyage, ce que j'aime surtout, c'est revenir. Métropolitain.
Pendant 13 ans, il a animé l'émission Métropolitain sur France Culture.
Quand il a arrêté son émission de radio, ça a fait un vrai manque. Les gens font toujours une référence et il était à la fois extrêmement pointu et capable d'être un grand vulgarisateur. Et ça, voyez-vous, c'est une qualité rare. Vous avez souvent des gens qui sont très pointus, mais vous avez l'impression qu'il faut prendre votre dictionnaire tous les 2 mots qu'ils disent parce que vous ne connaissez pas, quoi. Et lui, il avait cette faculté de vous donner l'impression que vous compreniez tout, ce qui d'ailleurs n'est pas forcément toujours le cas.
Ayant consacré une grande partie de sa vie à l'étude de l'architecture de Le Corbusier, les conditions de sa mort l'auraient probablement amusé, sourit Laurent Petit-Gérard.
Il est mort à pratiquement au même âge, et pareil, sur une plage. Enfin, il y a une sorte de similitude entre ces deux fins tragiques qui sont extrêmement touchantes, et j'ose même dire qu'avec son humour décapant, ça l'aurait probablement fait sourire. C'était évidemment un homme particulièrement attachant, et je dois vous avouer que là, je vais retrouver mon consoeur et confrère particulièrement triste à la rentrée.
Le temps pour demain, la canicule se poursuit. 12 départements du sud-ouest sont placés en alerte rouge, 41 en alerte orange. Cela concerne uniquement la moitié sud de la métropole. Quant aux températures, il fera chaud tôt le matin, au-dessus de 20 degrés partout en France. L'après-midi, comptez plus de 30 degrés dans l'ensemble des départements. Des orages prévus dans l'ouest, en Bretagne et les Pays de la Loire, ainsi qu'en PACA. C'est la fin du journal de la rédaction, préparé avec Martin de Clezot, à la technique d'Alia.